Philippe Solers, vous êtes un habitué de ces rencontres milanaises où vous intervenez avec un brio, avec une efficacité qui font le plaisir de votre auditoire. Mais votre propre plaisir à Milan, comment pourriez-vous le dire ?
Ah, c'est un plaisir absolu, d'abord parce que j'aime beaucoup l'Italie, et en Italie particulièrement cette ville qui est finalement la ville de deux grands saints que j'aime particulièrement. Vous voyez que ma vision n'est pas tout à fait stendhalienne, encore que je me balade aussi avec Stendhal à Milan, mais je vais un peu plus loin que lui, c'est-à-dire que je ne me coupe pas de la tradition antérieure, qui est la grande tradition catholique, et je vais voir avec le plus grand plaisir Saint Charles Borromée au Dôme et Saint Ambroise à Milan. Ce sont deux saints considérables qui sont trop mal connus, et que j'ai décidé, non seulement pour m'amuser, mais pour rendre hommage à leur admirable génie, de faire un peu revivre.
Ces remarques que vous faites sur Saint Ambroise et autres saints...
Saint Ambroise est le patron de Milan, vous savez, c'est lui qui a droit à la reconnaissance des Milanais, c'est lui en quelque sorte qui est le patron de la ville, je crois même qu'il est reconnu comme tel de façon tout à fait officielle, et Saint Charles Borromée s'est rendu célèbre par son action lors de la grande peste de Milan, et donc ce sont là deux événements, à mon avis, majeurs de la vie milanaise.
À votre façon, vous vous mettez sous le patronage aussi de Saint Ambroise.
Absolument, c'est un peu pour aller à contre-courant des gens qui viennent à Milan et qui disent « Ah, la Scala de Milan, tout de suite, voilà, c'est dans la tradition du 19e, cette tradition du 19e me paraît un tout petit peu périmée, elle est très saturée, beaucoup de gens ont cet imaginaire 19e-miste. Comme j'ai décidé de créer comme ça une sorte de perturbation dans les références culturelles et de prendre une longueur d'onde plus grande, eh bien, disons que je me sens mieux au 3e ou au 4e siècle, et quelque part entre le 14e et le 16e, pourquoi pas.
Cette filiation, on pourrait dire, sanctifie, entre guillemets, vos interventions, au point qu'on se demande s'il ne faut pas dire maintenant Philippe Solers ou le nouveau théologien.
Non, je crois que il y a une partie évidemment d'humour et d'ironie dans cette mise en scène. Les interventions sur la théologie sont tout simplement destinées à faire apparaître d'abord une ignorance, tout simplement. Une grande ignorance, une ignorance énigmatique. Ces textes, cette aventure théologique ont été tout simplement refoulés depuis deux siècles par la mainmise, il faut bien le dire, scolaire, universitaire et ambiante de la philosophie et d'études de la philosophie. Donc c'est l'aventure des deux derniers siècles où je pense que, après tout, aujourd'hui, on en est arrivé à un tel ressassement de toutes les données philosophiques que, pour dégager un petit peu cela, je crois qu'il faut redéterrer ces choses théologiques. Et je le fais dans un but qui est à la fois d'interprétation analytique, c'est-à-dire, je crois que la théologie est très riche de renseignements pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la façon dont on a raconté les impasses sexuelles au cours des âges. Premier point, et là finalement, je crois que c'est une tradition que Freud lui-même a indiquée en écrivant son Moïse et le monothéisme. Et d'autre part, je le fais parce que je crois que s'agissant de l'art et de l'esthétique, on ne peut pas sérieusement s'intéresser à l'art et à l'esthétique dans une grande longueur d'onde qui couvrirait 2000 ans sans suivre les rapports étroits, très étroits qu'entretient l'art et la théologie pour la musique, pour la peinture et pour l'évolution de ce continent qu'il faut dégager parce que simplement je crois que l'ignorance est trop grande.